je vous disais que il fallait voir cette grande expérience divine de Saul de Tarse et comment, à partir de là, il nous est exprimé comme un fruit de tout cela, cette grande paix, ce progrès dans l'Église. Il y a deux petites anecdotes que je saute. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. C'est le geste de la guérison d'aînée Alida, faite par Pierre. Et la résurrection de Tabitha. Ça, c'est très très beau, mais je passe. Et Tabitha, vous savez bien, c'est la gazelle. C'est une sainte femme, Tabitha. Merveilleuse sainte femme. Et alors on voit Pierre, étant donné que tout le monde est désolé devant la mort de Tabitha, Pierre ressuscite Tabitha. Mais ça, c'est dans la ligne de tout ce que nous avons vu. C'est pour montrer comment les apôtres, et surtout Pierre, puisque c'est Pierre en premier lieu, c'est Pierre et Paul, n'est-ce pas, dans les Actes des apôtres. Jean est un peu à l'ombre. Il est relatif à Pierre. Puis les diacres sont relatifs aux apôtres, bien qu'ils aient des initiatives propres. Suit le chapitre 10, et ça je crois qu'il est important au moins de le voir rapidement, parce que c'est la manière dont l'Esprit Saint va indiquer à Pierre comment il faut dépasser certaines traditions religieuses. C'est pour montrer comment l'Église est ouverte à toutes les âmes de bonne volonté. La conversion de Corneille indique cela. Paix aux âmes de bonne volonté. Et je crois que de nouveau, ça nous est dit avec une force très grande actuellement. L'Esprit Saint devance le baptême. C'est très important de comprendre ça. L'Esprit Saint devance le baptême. Et l'Esprit Saint montre à Pierre qu'il est donné, et parce qu'il est donné, eh bien, il n'y a pas de raison de refuser le baptême. Sans passer par la loi, sans passer par la circoncision. Et donc, les interdits alimentaires, qui de fait faisaient que les relations entre les juifs et les non-juifs étaient quelque chose de si difficile, et dépassé. Et les païens peuvent être admis directement dans l'Église, sans passer par la circoncision, sans devenir d'abord les disciples de la loi. Il faut bien comprendre ce que ça peut représenter dans la mentalité de Pierre. Chose assez extraordinaire, le traditionnalisme de Pierre, comme on dirait aujourd'hui, parce que c'est le traditionnalisme de Pierre. Pierre, il est très enraciné. C'est pour ça qu'on l'a choisi comme roc. Parce qu'il est très enraciné. Et il a déjà un certain âge, je crois, à ce moment-là. Et vous savez que les traditions, ça vieillit avec l'âge. Et donc, et c'est d'autant plus difficile de les dépasser. C'est pas commode de les dépasser. Et on voit comment le Saint-Esprit va bousculer Pierre. Il peut le faire, le Saint-Esprit. Il va bousculer Pierre pour qu'il y ait un dépassement. Parce que jusque-là, si vous êtes attentif, vous voyez bien, c'est les juifs, c'est ceux qui sont tout proches et qui sont des amis, qui sont dans la proximité. Et puis il y a eu l'audace de Philippe pour baptiser l'eunuque. Mais c'était sur la route et c'était rapide. Et puis c'était Philippe, c'était un diacre. Les diacres peuvent faire des gaffes, ça n'engage pas l'Église. C'est autre chose. Tandis qu'ici, c'est vraiment Pierre qui va lui-même être obligé de reconnaître publiquement. Vous voyez, c'est le passage, un acte en particulier. Ça, le Saint-Esprit peut faire ça. C'est un cas exceptionnel, ça ne fait pas loi. De temps en temps, on est bien obligé dans la vie apostolique. Un cas exceptionnel, ce qu'on appelle l'épiquie du Saint-Esprit. Un cas exceptionnel. N'en parlez pas surtout, parce que je me ferai taper sur les doigts. Alors n'en parlez pas. Gardez ça, je crois qu'il faut le faire, mais il ne faut pas en parler. Ça ne fait pas loi. Tandis qu'ici, ça va devenir comme l'exigence profonde de l'Église.